Bon, tout le monde n'est pas encore rentré, mais je vais commencer parce que on a déjà une session un peu tronquée cette année. Il est 11h, 11h03, donc je vais démarrer. On va commencer à discuter. Bienvenue à tous. Et voici donc le sujet de ma session, C# 5 un an après. Il y a quelques années, certains s'en souviennent peut-être, j'avais fait C# 3, il me semble, un an après, ou peut-être même C# 2. Pourquoi un an après? Donc c'est toujours un sujet qui est tout à fait d'actualité, hein, d'autant plus que C#, dans ses dernières moutures, se décline dans tous les derniers frameworks, hein, quelles que soient les plateformes que vous utilisez. Du coup, c'est toujours d'actualité, et puis, comme tout développeur, hein, au fur et à mesure qu'on utilise un framework, on en comprend mieux les fonctionnements et les scénarios dans lesquels on va pouvoir les utiliser. Et voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc on va démarrer. Alors, non, voilà. Donc il paraît que cette année il faut tweeter à mort, utiliser les réseaux sociaux, donc ça, ce slide est passé. Vous avez bien démarré. Je viens de me souvenir qu'il m'a dit qu'il fallait que je lui donne un top pour démarrer. C'est parti! Donc, voici l'agenda. Je vais faire quelques introductions et rappels. J'ai fait moi-même déjà des sessions, hein, sur le sujet il y a au moins 2 ans, je pense. Du coup, ce sera assez rapide, hein. Le but après, ça va être de comprendre vraiment comment ça marche, dans toutes les technologies. Je pense qu'on l'utilise mieux quand on sait ce qu'il y a sous le capot. Du coup, on va essayer de comprendre réellement. Il n'y a pas de magie, hein, c'est une surcouche qui a été ajoutée. La CLR n'a pas été modifiée. Ce sont des attributs de langage, un peu de librairie qui ont été ajoutés. Donc vraiment, on va essayer de comprendre exactement comment ça marche, et on peut toujours y arriver. En C#, on peut toujours y arriver, et c'est une bonne démarche de se demander, de toute façon, quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, comment elles sont utilisées, quels sont leurs impacts, est-ce que ça prend de la performance, etc., etc. Après, sinon, on peut programmer en JavaScript, on n'a pas trop à se poser la question, mais c'est un autre sujet. La synchronisation, comprendre justement les mécanismes de synchronisation, puisque ce qu'apporte C# à 5, hein, encore une fois, c'est le wait, hein. Donc c'est tout ce qu'on pouvait faire au niveau asynchronisme, etc., on pouvait déjà le faire avant. D'accord? On pouvait tout faire avant. Donc des trucs hyper fluides, etc. Si vous mettez de l'asynchrone partout en framework 2, vous allez y arriver. D'accord? Là, par contre, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc voilà le pourquoi de cet élément. Donc la synchronisation, le retour d'un await, comment ça se passe au niveau des threads et comment ça se met en place. Et puis, donc là, je ferai un petit exemple d'un bout de code que j'ai développé. Et puis, Sequential Task, également, un scénario qui me paraît intéressant pour implémenter un service que je vous montrerai également. Voilà, donc introduction rappel. Ces fonctionnalités sont intégrées à partir de C# 5, .NET Framework 4.5. Ce sont à la fois des évolutions du langage, on a deux nouveaux mots-clés, on a une nouvelle façon de compiler des méthodes, les méthodes qui sont marquées par A5. Et quelques librairies qui viennent étendre les fonctions classiques pour leur donner un goût A5. Et puis, quelques points également. Je vous rappelle que donc ça ne traite que de l'asynchronisme, de la syntaxe asynchrone. Ici, j'ai mis différentes parallèles. Ça peut être parallèle, mais ce n'est pas forcément parallèle. Hein, ne pensez pas que asynchrone et C# A5, c'est forcément des threads qui tournent. Ça peut être très bien monothread. D'accord? Si vous attendez de manière. On peut placer un await sur le button click. Et tout est dans le même thread, hein, tout tourne dans le même thread. Ça peut être multithread et ça peut être parallélisé, avec réellement en même temps, avec plusieurs processeurs qui exécutent. Donc toutes ces syntaxes où il y a un callback, en gros, on va pouvoir leur appliquer ces nouvelles fonctionnalités. Donc async et await, ça permet quoi? L'écriture linéaire des callbacks asynchrones. Donc à chaque fois que vous avez un délégué que vous placez en attente d'un résultat, eh bien c'est sur cette syntaxe qu'on va pouvoir simplifier. Le chaînage d'appels à travers un moteur à état, on va également pouvoir combiner de manière très très simple et très très complexe pour le compilateur, des awaits dans des boucles for, dans des if, dans des while, etc., de manière quasiment linéaire pour vous, pour le développeur. Et évidemment, si on imagine qu'on boucle dans un while autour d'un await ou dans une boucle for, il se passe des choses qui sont très complexes et on va naviguer dans un moteur à état que le compilateur va générer pour savoir où est-ce qu'il en est. Quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il va repartir, quand est-ce qu'il va revenir. L'encapsulation automatique de tasks pour les méthodes async, de la même manière qu'avec le framework 2, on avait un peu dénaturé les méthodes C# pour supporter le yield return. D'accord? On peut faire une méthode qui fait des yield return, et pour autant d'un entier, mais qui va implémenter une méthode qui renvoie un IEnumerable de int. D'accord, tout le monde voit ce que je veux dire. Et là, on comprend bien que c'est pas une méthode classique. Je fais un return qui correspond pas au type de retour. Et bien là, de la même manière, ici, avec task, il y a des méthodes async qui vont envoyer une task de string, et alors qu'on fera des returns qui ne sont pas de la même nature. Donc une encapsulation automatique. Et le pattern await, qui est le lien de branchement entre ces mots-clés et puis les librairies. Rappel, donc ici, petite, on va passer sur un petit peu de code. Donc là, très rapidement. Hein. Voilà, ici, je l'ai voulu monothread pour être très simple. Alors, je t'expliquerai pourquoi après. J'ai lancé une application, c'est une application Windows, mais j'ai quand même activé la console. Et ici, je vais taper test. Ah, je crois que l'entrée. Bon, ouais, vas-y. Test. Et puis ici, je vois que j'ai quelques résultats qui apparaissent. Et ici, donc, je rappelle le test. Ma méthode est marquée async, ma méthode rappel que j'appelle ici. Et ma méthode read, qui est la source asynchrone ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exécute dans un autre thread avec task.run juste un console.readline. Donc je décide, donc la console hein, est pratique quand vous débuguez l'async, puisqu'il n'y a pas d'exclusion mutuelle, donc tout le monde, tous les threads peuvent écrire dans la console en même temps, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai fait ce choix également. Je fais un readline, je le tape, j'attends de manière ici asynchrone donc mon résultat que je récupère sous forme de string. Ici, je veux pouvoir le loguer directement ici dans ma méthode read, donc je log le résultat et je fais return de s. Return ici est une string. On retrouve ici l'encapsulation dont je vous parlais. Je ne return pas une task de string et pourtant le compilateur va automatiquement générer cette tâche pour moi. Évidemment, alors donc ici, je wait à nouveau. Donc hein, ici c'était pour montrer l'encapsulation automatique. Read, je récupère un nouveau S et je le réécris ici. Bien sûr ici, task, ce sont des types classiques. Donc rien ne m'empêche ici, si je n'avais pas ce besoin ici de loguer, j'aurais pu très bien faire ici return de ma tâche directement, hein, puisque, et là ça devient une méthode classique, exactement comme le yield return. Par contre on ne peut pas mélanger les deux. À partir du moment où vous avez fait un return d'une task, votre méthode est dénaturée. D'un type simple, si vous faites un return d'une task comme je viens de le faire ici, la méthode est normale. Exactement comme si, à partir du moment où on fait un yield return, on implémente automatiquement IEnumerable et on ne peut plus faire de return classique de la méthode. Donc c'est un choix. Si vous avez à mixer les deux, il faudra imbriquer les fonctions pour cacher le wait. Ok, voilà. Donc tout petit rappel ici. Sur la démonstration, je reviens à mes slides. Ah mince. Ah tiens, il a rebasculé en Full HD, non? Je suis rêvé. Oula, c'est PowerPoint qui. Mais je vais rester comme ça. Vous voyez quand même. Hein. Voilà. Donc comment ça marche? À partir de quel moment on va pouvoir utiliser le mot-clé await? Ah non, ça, quand même, ça m'embête de ne pas l'avoir en plein écran, celle-là. Bon. Alors, le mot-clé await, est-ce que vous avez déjà essayé de faire await sur un objet à vous? Et pas sur des objets task déjà prédéfinis. Task, c'est une implémentation que propose Microsoft sur le framework .NET, mais l'objet await, lui, il appartient au langage. À un moment, le langage va être lié à des librairies, comme yield return et IEnumerable. Les mots-clés rejoignent un type. Et ici, à quel moment il est fait? Alors en effet, donc les tasks sont très puissantes, reliées à TPL, à plein de choses. Mais ici, on va montrer qu'on pourrait se passer de tasks éventuellement et faire notre propre implémentation si on comprend de quelle manière le await se branche aux librairies. Donc pour pouvoir être awaité, pour qu'un type puisse être awaité, il faut qu'il ait une méthode publique qui s'appelle getAwaiter et qui renvoie un objet, qui ne prend pas de paramètres. Donc c'est un contrat, c'est pour ça que j'ai ici parlé de pattern. Il n'y a pas d'interface comme IEnumerable, donc c'est beaucoup plus souple. Il y a moins de dépendance également sur les types, donc on peut imaginer une connexion avec plein d'objets à vous également. Et ça se fait en deux temps, exactement comme on a avec IEnumerable, IEnumerator. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? La vraie implémentation, c'est l'Enumerator, et le provider, c'est l'Enumerable. Ce qui permet d'avoir une délégation de l'implémentation. C'est-à-dire que si votre objet lui-même veut détourner la possibilité d'être awaitable, mais déléguer cette implémentation à un objet qui existe déjà, il a juste à implémenter le getAwaiter. Si vous voulez recoder toute la chaîne, vous implémentez un getAwaiter qui renvoie un objet de votre cru que vous allez pouvoir implémenter. Ce deuxième objet, lui également, à un contrat. Son contrat, c'est d'implémenter une interface qui s'appelle iNotification Completion et d'avoir une méthode, pardon, une méthode qui s'appelle getResult qui renvoie la valeur retour de la méthode, s'il y en a une, hein, ça peut être task tout court aussi, hein. Une propriété booléenne qui s'appelle isCompleted pour savoir si la tâche est terminée ou s'il faut attendre sa complétion. C'est assez simple. Et si on devait l'écrire sous forme d'interface, ça ressemblerait à ça, un petit peu comme IEnumerable et IEnumerator. Alors, le pattern, on va essayer de le réécrire à bas niveau ici ensemble. Alors, j'ai créé quelques petites structures ici, my class. Donc la question est la suivante. J'ai déjà marqué ma méthode async ici. Je voudrais faire un await de new my class. Donc ici, bien sûr, ça ne fonctionne pas puisque ma classe, bon, probablement, elle est vide. On a dit qu'il fallait un gateAwaiter, public, object, gateAwaiter. On va l'implémenter peut-être quand même. Voilà. OK. Et ensuite, j'ai dit que j'allais tout refaire à la main. Donc, je me suis fait une structure de retour ici qui s'appelle myAwaiter. Vous remarquerez qu'elle n'implémente pas d'interface, qu'elle ne dérive d'aucune classe également. Et un awaiter de string, je l'ai fait générique, hein, il n'y a pas grand-chose. Ici, elle a un constructeur qui prend ma valeur. Donc là, je vais juste implémenter le minimum syndical, le task.return. Donc c'est juste, je renvoie une valeur, mais à travers un mécanisme d'async. Ici, donc j'ai dit que j'implémentais iNotification completion. Uncompleted. Et puis, T-result, non, T-result de get result. Et puis, une propriété is completed. Completed get return. Ici, pour le moment, j'ai toujours un. Je suis toujours, c'est toujours non supporté ici. GetResult. ReturnResult. Donc très simple. IsCompleted. Donc là, j'ai pas d'asynchronisme. Donc c'est vrai dès le début. Et ici, ma continuation, je reviendrai sur ce point plus tard. Je vais juste ici écrire continuation. Et il ne faut pas forcément l'appeler à ce moment-là, mais j'y reviendrai plus tard. GateAwaiter ici, return, new. MyAwaiter de string. Et regardez désormais ici, ça compile. D'accord? Donc, il faut avoir rempli tout le contrat que je viens de définir sur les deux objets. À partir de ce moment, je peux awaiter cet élément. Et si ici, new MyClass. Ah ouais, new MyAwaiter. Je vais lui mettre test. Si j'exécute. Je teste, ça fonctionne bien. D'accord? Donc j'ai réussi à me brancher sans faire appel à task à tous les mécanismes de wait. D'accord? Manuellement, en réécrivant le contrat que m'a proposé le compilateur. On peut également le faire par méthode d'extension. Alors, ça c'est assez intriguant et c'est pas mal. Donc la plupart du temps, hein, on ne réécrit pas ces awaiters. Par contre, on en réutilise ici des existants. Okay? Donc le contrat dit. Il faut que la classe qui veulent l'objet qui veulent être awaité, il faut qu'il ait méthode getAwaiter. Alors la résolution de cette recherche de méthode est un peu plus souple que ça, puisque si jamais le compilateur ne la trouve pas cette méthode, il recherche également les méthodes d'extension. Ah, c'est rigolo ça. Public static class my extensions. D'accord? Et là je vais mettre à composer. Public static des fonctions existantes. Et par exemple ici, je vais task awaiter. Alors, ça c'est parce que je sais où je vais. Enfin pour le moment. Et je vais l'appeler wait this source. Oops. int source. Non, qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est get waiter. Et ici, return, je vais faire un task.delay. Tout le monde connaît task.delay, hein, ça part dans un thread d'attente qui va attendre tant de millisecondes, source. Et il a une méthode getAwaiter, hein, puisque c'est une task, c'est l'implémentation de Microsoft dans le framework .NET. Donc je vais renvoyer le waiter ici. Donc évidemment, les extensions de méthodes me permettent de rajouter ces fonctionnalités à des classes dont j'ai pas le code. Int est un très bon exemple, j'ai pas le code, vous non plus. Donc j'ai étendu int, et qu'est-ce que j'en fais? Je renvoie une task, qui est avec un awaiter, qui est celui du délai de task.delay. Maintenant ici, dans mon test, je peux faire un await de 2000 millisecondes. Messagebox.show. Ok. J'exécute ça, je teste. 1, 2, ouf. Ok. D'accord ? Donc, on va pouvoir se mettre à étendre des types sur lesquels on n'a pas forcément la main grâce à ces méthodes d'extension. D'accord ? Alors, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Au niveau de lisibilité du code, c'est pas terrible, terrible. Mais on peut faire des choses rigolotes. Notamment ici. Je peux dire également que je ne vais pas étendre int, c'est pas très parlant, mais je pourrais prendre un datetime source, et du coup le délai ce serait mon datetime moins datetime.now. D'accord, c'est bon. Et là je pourrais faire un truc du style new datetime plutôt parse. Et puis mettre 17h30 par exemple, l'heure de coding for fun. Donc là on va pas l'attendre parce que ça va être un peu long, mais vous l'aurez compris, la task va se soulever à cette heure là, et du coup je peux awaiter plein de choses. D'accord ? On peut également awaiter, non pas forcément la valeur de retour ou comme j'ai, ou juste l'événement, mais on peut s'en servir juste pour changer pour switcher de contexte. Donc un truc complètement creux, mais je vais faire un await d'un objet, puis je vais me retrouver dans le thread qui fait tourner cet objet par exemple. Donc ça permet de détourner pas mal de choses. Le call context, alors c'est des petits outillages, il faut que je surveille l'heure quand même, des petits outillages également au fur et à mesure. Le call context, ça existe depuis longtemps dans le framework, et il y a une fonction qui est assez intéressante. Je vais mettre ici dans mon deuxième bouton, call context point set data. Je vais gagner du temps, je vais le recopier parce que c'est très court, mais il y en a qui connaissent le call context en .NET. D'accord. Le thread local storage, TLS, vous connaissez. Thread static, vous connaissez. Oui, non, bon bref. Il y a les possibilités en .NET de stocker des données locales au thread. Il y a une notion qui est très importante en async, et quand on fait du multithreading de manière générale, c'est la notion qu'on appelle ambiante. Il y a des propriétés qui sont ambiantes, qu'on appelle ambiantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les faire passer par des paramètres, par les partager en statique, etc., etc. On aimerait qu'elles soient locales au contexte d'exécution. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si je suis dans un thread ou si je suis pas dans un autre thread, etc., j'ai mes données qui sont propres à mon cours d'exécution. Et quand on déclare des variables thread statiques, elles ne sont pas statiques globalement pour l'application, mais par thread. C'est-à-dire que j'aurai des versions différentes de mon stockage suivant le thread que j'utilise. Aujourd'hui, les architectures vont de plus en plus vers du pooling. On utilise les threads du pool, ils sont plus fiables, ils sont plus simples à utiliser, ils ont un cycle de vie qui est court, donc qui est moins dangereux également. Par contre, du coup, quand on utilise le pool de thread, le thread statique ne peut plus être utilisé. D'accord ? Puisque nos tâches sont lancées par un thread qui nous est inconnu. Et puis, quand on switch de contexte, même quand on revient à notre exécution, on n'est pas sûr que ce soit le même thread qui est continué à exécuter une même séquence de code. Donc, le call context ici, il a des fonctions qui sont classiques ici, qui permettent de faire naviguer Donc dans le chaînage d'appels des méthodes, un dictionnaire de données, donc c'est éphémère, hein, c'est juste le temps de l'appel, après c'est détruit. Il y a cette data, ça ne fonctionnera pas entre threads, à travers le pool non plus. Mais il y a une méthode ici qui s'appelle setLogicalData, qui permet d'avoir le contexte d'exécution continu. C'est-à-dire que toute la chaîne d'exécution asynchrone, avec des awaits, vous passez d'un thread à l'autre, vous faites un task.run, vous repartez dans un autre, etc. Puis vous finissez par revenir. Toute cette chaîne, si vous voulez avoir des données ambiantes, donc qui sont toujours disponibles à travers ce chaînage, même si vous changez de thread, vous pouvez stocker ici dans le call context à travers logical set data. Hein, set et get data classique ne marcheront pas. D'accord? Ça a toujours existé dans le framework, ces fonctions. Ça existait même en remoting. On pouvait même suivre la continuité en distant à travers le remoting. Voilà, donc des petits outillages également que je voulais vous montrer. Alors là, c'est les slides qui indiquent qu'il y a eu une démo. Ça, on l'a vu. Je regarde toujours l'heure. Okay. Le contexte de synchronisation. Quand on lit les docs MSDN sur C# Async, l'introduction, on voit que le retour d'un await revient automatiquement au thread appelant. Est-ce que tout le monde connaît ce point? D'accord? C'est un des trucs qui est vraiment sympa, c'est-à-dire que je suis dans une application Windows Forms, ou WPF, ou Phone, ou Windows 8, peu importe. Lorsque je veux faire une exécution off-thread, pour ne pas pénaliser la fluidité de mon thread principal, je pars sur un task.run, par exemple, et au retour, lorsque mon calcul est fini, sur un view model, sur quelque chose qui est non visuel, je récupère ma valeur, je veux souvent la rebinder ou la remettre dans l'interface, et à ce moment-là, on sait qu'il faut être à nouveau dans le thread appelant, et bien grâce à Await s'occupe de ça, donc en tant que développeur, c'est royal, on n'a pas à s'en préoccuper. Alors, pareil, ok, ça marche, mais comment ça marche et quel est le mécanisme qui implémente ça? Et là aussi, on va avoir besoin d'une notion ambiante. Donc, il y a des possibilités de capturer justement les contextes et de les restaurer lorsqu'on revient d'une méthode. Je refais un petit mot. C'est le synchronisation context qui s'occupe de ça. Les contextes sont toujours un petit peu différents. Vous voyez cet objet un petit peu comme un execution context, mais qui est abstrait, donc qui marche avec toutes les plateformes et qui permet de donner à C# Async un petit peu tout le temps la même écriture. Ça peut être, les synchroniseurs peuvent être en Windows Forms, un contrôle.beginInvoke. Ça peut être en WPF, un contrôle, le dispatcher.beginInvoke. D'accord? Ils ont tous des apparences un peu différentes. Vous pouvez utiliser le synchronisation context dans tous ces cas-là. Il abstrait ces différences entre les différents moteurs qui ont des mécanismes de synchronisation. Il les agrège et donc vous pouvez l'utiliser toujours de la même manière. Alors, déjà ici, c'est pas là déjà. Synchronisation context. Voilà, tout le monde voit ce code là. Je vais l'exécuter. Donc ici, je lance Toto. Ah oui, je voulais vous montrer juste un petit truc ici. Configure await, ici, là. On peut dire au task de ne pas capturer le contexte. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure devient faux. C'est-à-dire que quand on ne revient pas au thread appelant. D'accord? Donc on peut figurer. Et comment ça marche, le configure await? Ça détourne le task awaiter. Et ça en renvoie un autre qui est configuré différemment, le task awaiter qu'on a vu tout à l'heure, hein, au début quand on l'a implémenté nous-mêmes. Donc on peut refuser ce comportement par défaut. En effet, j'aimerais continuer la synchronisme, mais je ne reviens pas forcément à l'UI. Donc non, je n'ai pas envie que le retour de cette méthode asynchrone vienne me bloquer mon code, et j'ai envie de continuer en asynchrone. Donc je peux refuser ce mécanisme par défaut. Alors, j'étais en train de dire ici que donc par des là, il est classique, donc normalement je reviens sur le thread appelant. Ici, j'affiche le thread principal, je pars dans Toto qui est à 5, j'affiche l'ID de mon thread, je pars dans un delay, et au retour ici, je raffiche le thread ID. Alors, c'est pas très gros, mais 1 et 4. Donc, comportement par défaut, et pourtant, je ne reviens pas au thread appelant. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait? On va voir ce qui se passe ici. Synchronization. Mettre pas surtout là. Contexte. Point current égale nul. Je suis dans une application console. Je n'ai pas de contexte de synchronisation. Donc le retour, MOOC, c'est qu'est-ce qu'il exécute ? Alors je vais vous poser une question toute simple. Et comme quoi, souvent, quand on est développeur, on s'en pose pas forcément assez. Imaginons que je veuille que ça marche quand même. Donc je suis dans une application console. L'application console, mon thread principal, il est ici. Il est en train d'exécuter un read line, il est bloqué sur la console. Tout le monde est d'accord ? Là, je pars ici sur un await, donc Toto est libéré immédiatement. D'accord ? Et du coup, ici, il fait quelque chose, mon thread principal. Donc c'est pas gratuit de dire au retour d'un await, c'est le thread appelant qui reprend la main. Ça c'est beau, c'est sympa, d'accord ? Ah ouais, mais s'il fait quelque chose, il reprend quand la main ? C'est pas magique, hein ? D'accord ? En l'occurrence, là, il est bloqué en train d'exécuter le read line. Donc certes, à coup sûr, il ne pourra pas reprendre la main. D'accord ? Donc, il y a des possibilités d'utiliser donc des contextes de synchronisation. Or ici je ne suis pas dans un contexte de synchronisation, je suis dans un service Windows, dans une application console. Et bien qu'à cela ne tienne, ici, avant de partir dans Toto, synchronization context.current égale new, et bien on va s'en développer un. Public class my sync context. Synchronization context. Ok. Là, il y a quelques classes surchargées, donc je vais juste aller le mettre en évidence. Post. Donc post, voyez-le un peu comme dispatcher.beginInvoke. D'accord. On poste l'exécution à un autre contexte qui va l'utiliser. Ici, je vais juste mettre F9. Je vais quand même finir mon new là, sinon. 5 my 5 context. D'accord. Donc, c'est 7. 7 synchronisation context. Et j'ai mis un point d'arrêt ici. Et je vais en mettre un ici dans mon delay. J'ai raté. F9, F5. D'accord, je pars là-dessus. Et au bout d'une seconde, je veux revenir de l'await. Dans quel contexte ? Eh bien, il demande à mon synchronisation contexte. Il me demande à toi de me remettre dans le contexte d'exécution normal pour que le retour de l'await se fasse bien. Donc ici, le problème, c'est que j'ai pas de contexte. Donc si j'en développe un, il va falloir que je fasse l'équivalent d'une boucle d'appel. Je vous rappelle ici le main d'une application C++, fenêtré. D'accord ? On crée les instances, les modules, etc. Et ici, une application, parce qu'on a trop l'habitude de développer en événementiel, où tout code part d'un message. À chaque fois qu'on est un code, on part d'un bouton clic, d'un timer, etc. Et la branche se termine. Mais que fait l'application quand on fait rien ? Une application WPF ou Windows Forms, elle fait ça. Ce qui est visible en C++, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle scrute la pompe de messages pour savoir si, justement, l'utilisateur a donné des événements. Et puis après, elle les traduit, ces messages, elle les dispatch, Windows Proc, etc., etc. Du coup, il se passe toujours quelque chose. D'accord ? Et c'est cette boucle qui va pouvoir redonner la main à un await. C'est-à-dire que quand on a un await post, on redemande au synchronisation context et qui récupère la main, eh bien, si on est dans une boucle principale de l'application qui est en train de tourner, on peut très bien imaginer que les demandes de retour de await soient empilées. Et lui, quand il reprend la main, quand il reprend le souffle, il voit cette demande et il lui redonne la main. Et là, de manière non magique, le thread principal peut redonner la main et dépiler de la même manière qu'il dépile les événements souris ou autres, dépiler les await en attente et leur redonner du souffle. D'accord ? Vous voyez comment ça fonctionne ? Donc ici, alors on va pas se le faire là, en fait. Par contre, je vais juste. Alors, je vais regarder l'heure parce que c'est le truc qui me stresse aujourd'hui, avec ces 45 minutes. Bon, on fera pas de questions-réponses, ça m'arrange. Contexte démo. Du coup, là, je veux rester dans l'application console. Et on va faire quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu crade, mais qu'on fait très souvent dans Windows. Je vais créer une fenêtre dont je n'ai pas d'usage graphique. Quand je dis que c'est très souvent, tout le modèle com est basé là-dessus. Tous les objets qui communiquent dans Windows passent par des. Il faut pouvoir faire des send messages et des post messages dans Windows, sinon on s'en sort pas. Donc je vais référencer Windows Forms. Je vais créer une petite fenêtre qui était invisible, hein, mais Windows porte bien son nom, il faut toujours des fenêtres. Ici, donc, je vais juste spécialiser Form pour qu'il ait absolument aucun style, pas de bordure, pas de visibilité, pas de paint, rien, mais une boucle de messages. Voilà, maintenant que j'ai cette forme ultra, ultra classique ici, j'ai créé une petite classe que je vais vous commenter, que je livrerai également avec les slides, qui embarque une fenêtre. Et en gros, dès que je suis dans le loaded de ma fenêtre, j'ai gagné. C'est-à-dire que je suis à l'intérieur de ma boucle while hein, et que ma pompe de message est en marche et est capable de dépiler et de redonner la main à des await dans le thread de la fenêtre. Donc, je ne vais pas tout commenter rapidement. Pof, je crée ma forme. To show in taskbar. Là, je me synchronise. Bon, start ici, c'est lui qui est intéressant. C'est mon thread. Donc, j'ai donné la même apparence hein, qu'un thread pour l'usage. Je démarre un thread interne, donc exactement comme une application C++. Hein. Le thread démarre ici. Je fais un show dialogue, qui normalement est bloquant, mais la ruse est ici. Je fais un show dialogue parce que je ne veux pas que ma fenêtre se termine. D'accord? Donc le show dialogue est bloquant, et le show dialogue, comme je ne suis pas dans une application C++, j'ai bien créé le thread, mais j'ai pas ma bou fameuse boucle d'attente, le show dialogue en a une. Quand vous faites un show dialogue, vous avez une boucle imbriquée qui se lance, et c'est celle-là que je vais utiliser pour simuler à mon application que je suis bien dans une application fenêtrée alors que ce n'est pas le cas. Bref. Ici, j'ai réimplémenté pour l'usage les begin invoke async, begin invoke async, etc., pour déclencher des actions sur ce contexte. Mais en fait, ici, le run me suffit. Et du coup, ici, je fais start et je vais déclencher mon action. Donc ici, autour de Toto, je vais faire special. Non, comment je l'ai appelé mon truc? Synchronization, synchronizable thread. New. Donc je lui donne la même apparence qu'un thread. Hein. Toto. Var synchronizable thread égale. Peut-être qu'il faudrait que je le mette en. Voilà. Et du coup, maintenant je vais lancer mon exécution. 3, retour de l'await, 3. D'accord? Bon, visuellement ça claque pas des masses, mais le truc est extrêmement important. Si vous êtes dans des contextes non fenêtrés, vous avez moyen de récupérer cette fonctionnalité, d'avoir le retour de l'await qui est dans le même contexte de la plan, ce qui est quand même extrêmement souple hein, pour le développeur. Il nous reste 8 minutes, je suis ultra large. Vais peut-être pouvoir la coder entièrement. Un dernier scénario que je voulais vous montrer. Non, pardon. Voilà, celui-là. C'est qu'un show task. Ok, task.run, c'est aussi facile que task.delete, presque. Tout le monde l'utilise à gogo, c'est super pratique, c'est off-thread, ça libère mon thread principal, etc. etc. Par contre, il y a plein de ressources. Auquel il vaut mieux pas accéder de manière parallèle. D'accord? Si vous accédez à des services web, machin, on peut lancer 2, 3, 4 en parallèle, task.run, task.run, task.run. On peut awaiter le tout, task.when all, ce genre de choses que vous avez tous vu dans les samples async. Par contre, il y a plein de ressources auxquelles il vaut mieux pas y accéder en parallèle, sinon c'est plus lent, comme le disque. Hein, le disque, c'est assez simple. Si vous faites un task.run de la lecture d'un fichier en parallèle 10 fois, ça va aller beaucoup moins vite que si vous lisez en séquence. Pourquoi? Parce que le disque, il est unique. À un moment ou un autre, il va sérialiser les appels de toute façon. Donc autant ne pas engorger le système et faire les appels en séquence. Alors, await, vous allez me dire, il est très bien fait pour ça. Await, je fais une première lecture. Je reviens, await, je fais ma deuxième lecture, etc. Sauf qu'imaginez que je lance, que je ne les ai pas en séquence dans le code. Je le lance derrière un bouton. À chaque fois que je clique, je lis un nouveau fichier. Là, je ne peux plus brancher mes awaits. Ils sont partis, j'ai plus la main dessus, j'ai plus la main sur le contexte de retour, etc. Donc, c'est ce scénario que je vous propose d'éclaircir ici dans un petit exemple. Alors, du coup, je vais implémenter ici une notion de service. Je vais plutôt que de partir sur task.run, j'aimerais avoir un service qui tourne de chargement de fichiers, mais qui sérialise ces appels. C'est-à-dire que moi, mon service, je l'appelle, point barre. Peu importe si je mets les 10 appels de suite, je les appelle et il va m'assurer que les appels se feront de manière séquentielle. Tout le monde voit ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire qu'il va recevoir de multiples appels, mais il va les exécuter dans l'ordre. Alors, je vais l'implémenter d'abord de manière classique. Donc ici, j'ai symbolisé mon action par run. Et voilà ce que j'aimerais ici faire dans mon bouton clic. J'ai une liste box, hein, c'est une application de WPF. Je simule que la tâche est un petit peu longue. Et puis ici, je rajoute un count, je rajoute une valeur dans ma liste box pour dire que c'est terminé. Mais tout ça, je veux que les différents. Vous voyez que c'est derrière un bouton clic. Je peux cliquer comme un fou 10 fois une seconde. Il faut qu'ils s'empilent et qu'ils s'exécutent de manière séquentielle. Ici, j'ai mis une méthode run ici, donc qui prend mon action. Je le rajoute ici dans une file d'attente. Concurrent queue, hein, depuis pas mal de frameworks, hein, on a des fonctions concurrent qui vont faire les locks automatiquement, hein, sur les écritures et les lectures des queues. Et ici, donc, je vais empiler mes actions. Alors, comment. Alors, l'audit, il est où? Il est là. Je vais me déclarer un thread. Donc, je vais d'abord implémenter le service de manière classique, entre guillemets, comme on l'aurait fait de base sans async. Donc, j'aimerais que ce soit un service actif qui tourne dans mon application. Service thread. Dans le loaded ici, je vais faire service thread égale new thread. New thread, ici, je vais faire void run service. Service thread.start. Okay. Et puis ici, alors je vais mettre is running. Non. J'ai un running ici. Je vais le mettre ici. J'ai un petit booléen, hein. Is running à true. Donc je vais faire du très classique. Donc j'ai un service. Donc le service est tout actif. While is running. Do, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dépiler action égale nul et je vais dépiler if actions au pluriel, donc ma queue, ma liste d'attente, try the queue action. Si j'en trouve une, alors je l'exécute. D'accord? Et je suis dans un while et je recommence. Ok? Et puis, alors, on va faire propre quand même. Comment on termine un thread, hein? Is running est égal à false, qui finira par terminer logiquement ma boucle et la méthode de mon thread. Et on va faire très propre, service thread.join. Je vais attendre que le thread se termine. OK. Je vais exécuter ça. Load, une seconde. Pof. Et OK, maintenant je vais cliquer 3 fois de suite. D'accord? Et ça arrive de manière séquentielle. D'accord? Donc là, ça vous assure que si c'est le disque, par exemple, j'y accède de manière efficace. Par contre, ici, dans mon code, évidemment, j'ai un truc qui n'est pas terrible. C'est que ma task ici, elle prend 30% de mon CPU. Pourquoi? Parce que quand elle fait rien, elle tourne quand même à fond la caisse. Donc elle fait pas rien. Okay? Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on met en place un petit signal. Manuel reset event. Wake. Voilà, je vais le déclarer ici pour aller plus vite. Je crois qu'il faut lui donner un état. Ouais. Je vais mettre le flag à false. Et puis ici, else. Donc au lieu de tourner comme un bourrin, je vais lui dire plutôt wake. Je vais le resetter. Mince. Et je vais lui dire d'attendre. Wait one. D'accord? Donc je vais attendre que quelqu'un me réveille. Ok? Maintenant, après avoir rajouté une liste, éventuellement, je vais signaler mon event. Pour dire réveille-toi. Ok? Je vais également resetter, sinon faire un set, sinon il s'en sort jamais sur le close. Non, un set. Ok? Bon, voilà. Donc, bon, c'est du threading classique ici. Je fais ça. 1, 2, 3. Par contre, ici, quand il ne se passe rien, j'ai bien 0%. Ok? Ça, c'est du classique. Et ce scénario-là, Je vais le transformer. Donc la même fonctionnalité de service, hein, je vais la transformer. Donc on va se passer du thread et de ça. Donc vous avez vu pourtant ça embarque plein de mécanismes, systèmes, etc. etc. hein. Closed, lui on va s'en passer. Lui on va s'en passer. Lui a pu. En fait, on va un peu tout virer en fait. Run, c'est lui aussi en fait. Voilà. Et on se retrouve dans notre méthode run en fait. Hein. D'accord? Ici, je vais essayer de la raisonner en async. Vous allez voir que ce que je viens de faire exactement, je vais pouvoir l'écrire en async sans aucun mécanisme système de thread, de synchronisation, d'event, etc. Donc, l'idée est la suivante. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait une tâche en cours ou pas, je vais ici rajouter quand même mon action dans une liste d'actions en attente. Si c'est déjà en cours, je m'en vais. Is running est égal à true, est égal à false. Et ici, donc j'ai pas de thread hein, supplémentaire, hein, je vais l'implémenter dans le pool. While action égale nul. While actions.try dequeue out action, tant que je récupère des actions en attente, je vais awaiter un task.run et je vais lancer mon action ici. D'accord? Et c'est tout. Donc je vais lancer ça. Ah, il manque un petit truc. Ah, is running, il est déjà. Ah oui, je l'avais pas mis à vrai dans le. Et ça fonctionne. D'accord? Alors, on va revenir sur cette méthode qui est quand même un peu troublante. Qu'est-ce qui se passe ici? Premier appel, quoi qu'il arrive, je rajoute dans ma liste d'attente. Is running est à false, je le mets à vrai, je le récupère de suite. Hein? Alors je l'ai déclenché ici, mais je le récupère de suite. Je le dépile directement. Il va dans la pile, je le dépile. Je fais un task.run dans le pool. J'ai pas à me gérer du thread. Est-ce qu'il est planté? Est-ce qu'il est bloqué? C'est le pool qui s'en occupe. Je le délègue au pool. Je le wait. Et là, async, le moteur état qui est compilé, il est énorme. Dans un while ici, le while se termine. Is running at false, je ressors. D'accord? Maintenant, imaginons que je clique deux fois de suite sur mon bouton. Donc, on imagine ici que maintenant je suis dans le task.run ici. J'ai le running à vrai cette fois-ci. Lui, le deuxième appel arrive. C'est pas fini. J'ai pas réouvert la porte ici. Donc, il fait un return direct. D'accord? L'appel s'en va. Par contre, ici, le while ici n'est pas fini grâce à le wait. Il va revenir au contexte appelant. Il va voir qu'il y a des demandes qui se sont empilées dans sa liste. Il va redépiler une, il va refaire un task.run, etc., etc. Et sans avoir aucun mécanisme de thread ici, toute la synchro et le retour, et même le cycle de vie du thread, parce que j'ai exactement la même fonctionnalité qu'un service ici, mais je n'ai plus à maintenir, ce qui est un peu dangereux, hein, la vie d'un thread qui tourne, les exceptions, comment je les gère, etc. Je passe par le pool. J'ai exactement les mêmes fonctionnalités ici, mais grâce à C# A5, cet await-là, il paraît tout simple dans un while, hein, mais il est vraiment magique. Et il permet de résoudre ce genre de choses. Vous avez vu la différence de code, hein, entre les deux implémentations, et j'ai fait que du très simple ici, hein. Ici, uniquement avec A5 et tous les mécanismes sous-jacents de thread, j'ai pas eu à me synchroniser. On a bien senti qu'il fallait que je fasse des manual reset events, etc., etc. Et ici, j'ai pu m'en passer. Il est 48. C'est la fin de cette session. Je vous remercie d'avoir assisté et si vous avez des questions, on peut en discuter en off. Je crois qu'il faut qu'on libère tout assez rapidement, mais je suis encore à mon bureau.